exact. Aujourd'hui, pour commencer, nous allons parler de politique. Et puis...
Soit même un discours un peu sérieux. Il est grand, il est beau, il est fort. Il est roi et il le sait.
La nuit, au clair de lune, il se tenait caché au bord de la route.
Bonjour tout le monde, vous êtes bien sur le plateau de...
GTFM
sur le 91.2.
Sonolab. Le Sonolab. L'atelier des sons. Des projets sonores et radiophoniques réalisés avec des écoles, collèges, lycées, des établissements médicaux, sociaux, culturels, de loisirs de 6 ans à 166 ans. Le mercredi et le dimanche à 11h sur JetFM 91.2.
Bonjour, bienvenue sur JetFM. Nous sommes la classe de 3e 3 du collège Rosa Parks de Clisson. Dans le cadre d'un projet éducation aux médias, nous allons vous présenter une émission sur le thème des risques auditifs. Dans cette émission, nous parlerons du rapport des jeunes à la musique, avec comme exemple le Hellfest. Puis nous présenterons le Hellfest à Clisson. Vous pourrez également entendre l'interview d'un spectateur et d'un bénévole.
La seconde partie de l'émission abordera les pratiques actuelles des jeunes et les risques encourus à écouter de la musique à un niveau fort. Nous accueillerons notamment une élève malentendante et diffuserons l'interview de son audioprothésiste. Enfin, au travers du spectacle Peace and Love, nous évoquerons les bons gestes à adopter. On commence sans plus tarder avec Thaïs, Amélie et Audrey qui vont nous parler du rapport des jeunes à la musique.
Merci Taïna. Saviez-vous que la musique est le domaine culturel préféré des Français en termes d'écoute et aussi de pratique instrumentale ? Les jeunes sont nombreux à écouter de tout. Le numérique permet une augmentation de l'accès à la musique et dépasse les différences de classe.
2/3 des jeunes se rendent au moins à un concert par an, majoritairement avec des amis. 1 collégien sur 10 et surtout 1 lycéen sur 4 y vont 3 fois par an et plus.
Aujourd'hui, les téléphones portables, les ordinateurs et les tablettes sont les supports préférés des jeunes pour écouter de la musique. 93% des jeunes utilisent leur téléphone portable pour écouter de la musique et 70% le font plusieurs fois par jour. Les lieux de concert les plus fréquentés par les jeunes sont les salles type Zénith, les cafés-concerts et les festivals type Hellfest.
Nous allons vous présenter maintenant l'événement qui fait la fierté des Clissonnais depuis 11 ans, le Hellfest. Beaucoup de jeunes écoutent le rap et du hip-hop. Nous, à Clisson, on écoute du métal. Le Hellfest est un festival musique français spécialisé dans les musiques extrêmes. Elle est organisée tous les ans au mois de juin pendant 3 jours à Clisson. C'est aussi l'un des plus grands festivals du métal en Europe et le premier en France.
Il trouve son origine dans un autre festival musical, le Fury Fest, qui se tient de 2002 à 2005 dans différents lieux des Pays de la Loire. Le Hellfest en prend la suite en 2006 puis connaît en quelques années une hausse continue de sa fréquentation, passant de 22 000 pour la première édition à 152 000, entrée payante en 2015. Le heavy metal est un genre dérivé du rock apparu au Royaume-Uni et aux États-Unis à la fin des années 1960. Il puise son inspiration entre 1969 et 1974 dans des groupes de hard rock tels que Black Sabbath et Deep Purple, qui combinent des sons centrés sur les impulsions de la batterie et de la guitare avec une distorsion très amplifiée.
Le Hellfest est donc du gros son à Clisson pendant 3 jours. Ses organisateurs sont conscients des risques dus au bruit. Ils ont déjà fait un gros travail pour réduire les nuisances envers les riverains, notamment avec l'orientation des scènes. Mais maintenant, ils font face à une nouvelle loi parue au journal officiel du 7 août dernier. Celle-ci imposerait aux manifestations en extérieur de réduire de 105 à 102 décibels. Cela paraît peu, mais déjà à 102 décibels, les spécialistes pensent qu'au-delà de 10 minutes, il y a un risque de séquelles. Mais le public concerné pense plutôt vivre la musique, c'est l'entendre, l'écouter, un volume pour avoir un volume suffisant pour être physiquement transporté. Du coup, le Hellfest est à l'origine d'une pétition protestant contre cette loi. Ils sont accompagnés de différents festivals et d'artistes comme Jean-Michel Jarre, en attente de résultats.
Nous donnons tout de suite la parole à une spectatrice du Hellfest, Valentine, interviewée par Taina et Tess.
Bonjour, nous sommes avec Valentine. Nous allons vous poser des questions sur le Hellfest.
Que pensez-vous du Hellfest ?
Ben, pour moi, le Hellfest, c'est un festival de musique métal. Donc, j'aime beaucoup ce festival.
Qu'aimez-vous le plus au Hellfest ?
Je dirais l'ambiance, parce que tout le monde ressent la même chose là-bas. Et la musique est bien aussi. Donc.
Quels sont les groupes de musique que vous aimez ?
Je ne connais pas vraiment le nom de musique, mais j'aime bien Iron Maiden. Mais il passe cette année, voilà.
Combien de temps allez-vous au Hellfest ?
J'y vais normalement un seul jour quand je peux, mais si je pouvais y aller plus souvent, ce serait bien.
Y allez-vous plus le soir ou la journée ?
La journée.
Mangez-vous au Hellfest ?
Oui, j'achète sur place de la nourriture.
Est-ce que vous dormez sur place ?
Je n'ai jamais dormi au Hellfest sur place, mais je connais des gens qui le font.
Est-ce que vous trouvez les places chères ?
Oui, c'est cher, mais pour un festival comme ça, je pense que ça vaut le coup d'acheter une place. Même si, oui, le prix est assez élevé.
Il est d'à peu près combien ?
Plus d'une centaine d'euros, je crois. Je suis pas sûre.
Avez-vous un look particulier quand vous allez au Hellfest ?
La dernière fois, j'ai mis une salopette.
Est-ce que vous participez à l'organisation du Hellfest ?
Non, moi je me contente d'y aller.
Quand vous allez au Hellfest, est-ce que vous portez des bouchons d'oreilles ?
Oui, bien sûr que j'en porte.
Merci de votre attention et merci du temps que vous nous avez accordé.
Bah, de rien, merci, ça m'a fait plaisir.
Et maintenant, écoutons Anita Charrier, agent d'accueil au collège Rosa Parks. Elle nous présente dans cette interview, réalisée par Thaï, Siona et Khalil, en quoi consiste son bénévolat au festival Hellfest à Clisson.
Vous êtes bénévole au Hellfest et pourquoi faites-vous ce bénévolat ?
Parce qu'il y a 5 ans, on y est allé par curiosité au festival et on a trouvé ça super. Et l'année d'après, avec une de mes amies, on s'est inscrite pour être bénévole. Et pourquoi ? Parce qu'on adore.
Depuis combien de temps pratiquez-vous ce bénévolat ?
Cela va faire 4 ans. On commence à s'inscrire vers le mois d'avril. Mars-avril. Oui.
Assistez-vous au festival en lui-même ?
Oui, bien sûr. On travaille à peu près 6 heures dans une journée, donc on a largement le temps d'assister au concert.
Qu'est-ce que vous aimez dans ce festival ?
L'ambiance, les effets, c'est toute une atmosphère.
Pouvez-vous nous décrire les risques auditifs liés à votre activité ?
Alors, il faut reconnaître que le son est très 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 fort, donc on a des bouchons d'oreilles, si on le désire. Ce qui atténue le bruit.
Protégez-vous vos oreilles lors du festival ?
Oui, par moment. Par moment, on met les bouchons d'oreilles. On ne les met pas toujours parce qu'on n'entend pas spécialement ce que disent les gens. Ça couvre trop les bruits, quoi. Donc, on les met de temps en temps, oui.
Souhaitez-vous rajouter quelque chose ?
Hellfest est un festival où la musique est très forte. Donc, dans la mesure du possible, protéger ses oreilles, mettre des bouchons. Il y a des casques aussi qui sont disponibles pour les enfants. Mais... faut le faire une fois dans sa vie pour connaître cette ambiance, pour être en déconnexion totale.
Bah, merci d'être venu et d'avoir répondu à nos questions.
Merci à vous les filles.
Dans cette première partie, on voit bien l'importance de la musique pour les jeunes. Ils en écoutent sur tous les supports et notamment leur téléphone portable, ainsi qu'au concert ou dans des festivals. Avant de connaître les risques à écouter la musique trop fort ou trop longtemps, voici une pause musicale avec un groupe bien connu au Hellfest.
The
Alors, vous avez reconnu chez vous ? Il s'agissait de Rob Zombie avec le morceau Dragula. Merci à Marius, François et Kylian pour le choix musical.
En deuxième partie, on va vous parler de la façon dont les jeunes écoutent la musique et des risques encourus pour leurs oreilles. En classe, nous avons étudié la tête acoustique prêtée par l'Agence régionale de la santé. Nous l'avons testée en chuchotant tous en même temps, en parlant normalement et en parlant fort. Nous avons aussi mis la musique sur une enceinte et nous avons observé les mesures affichées sur la tête acoustique. Le son se mesure en décibels. Pour 20 jusqu'à 30 décibels, qui est égal à une voix en chuchotement, l'intensité est faible. 70 et 80 décibels, qui correspond à la voix normale quand on parle, est une dose de son acceptable. À partir de 120 décibels, ça devient trop fort et dangereux pour l'oreille. Pour plus de 160 décibels, ce qui est égal à un cri, l'intensité est forte. Le maximum que nos oreilles peuvent supporter, c'est 190 décibels.
Le mode d'écoute sur téléphone portable est risqué, car il dépend de la qualité des équipements, téléphone et oreillettes, mais aussi de celle des enregistrements, souvent de mauvaise qualité qui pousse les jeunes à augmenter le volume, comme le MP3. 80% des jeunes écoutent plus d'une heure de musique par jour. Plus on avance en âge, plus la durée quotidienne d'écoute augmente. Plus les jeunes écoutent la musique à un volume important, plus la durée d'écoute quotidienne est longue. 51% des jeunes de 12 à 19 ans ont l'impression de moins bien entendre. 45% ont des maux de tête suite à une exposition sonore. 67% des plus âgés, c'est-à-dire 18-19 ans, ont des acouphènes. Ce sont des sifflements et bourdonnements dans les oreilles comme ceci.
Qu'en pense Eric Dutier ? Il est audioprothésiste à Clisson. Il va nous expliquer les risques encourus. On vous présente maintenant son métier. Le rôle d'audioprothésiste est de permettre à des personnes qui entendent mal de retrouver une vie normale grâce à une prothèse auditive. On écoute tout de suite l'interview d'Eric Dutier, audioprothésiste, réalisé par Tristan et moi-même.
Bonjour, Eric Dutier, je suis audioprothésiste. Merci de m'accueillir. Alors mon rôle, c'est de faire l'appareillage des personnes ayant des problèmes d'audition. Je procède au choix de l'appareillage auditif, à l'adaptation, à sa délivrance et au contrôle de l'efficacité de l'appareillage de façon immédiate et permanente. Et puis j'ai un rôle aussi d'éducation aux prothétiques sur le fonctionnement de l'appareillage auditif.
Quels sont vos horaires ?
Alors, au niveau des horaires, je travaille du lundi au vendredi, de 9h à midi et de 14h à 18h, avec des horaires un petit peu extensibles en fonction des rendez-vous, du temps à passer avec les personnes.
Est-ce un travail d'équipe ?
Oui, alors c'est un travail d'équipe. On peut travailler tout seul, mais la plupart du temps, on travaille en équipe. Je dirais que la première équipe, c'est avec le patient, parce qu'on a besoin d'échanger ensemble pour pouvoir régler au mieux l'appareillage auditif. Il y a un travail d'équipe aussi avec une assistante qui travaille avec moi dans mes laboratoires, qui permet de faire l'accueil, la prise de rendez-vous et toute la partie administrative. Et puis c'est un travail d'équipe aussi pluridisciplinaire avec les médecins spécialistes des oreilles, les médecins ORL, parfois avec des orthophonistes pour la rééducation du langage et apprendre à réidentifier les sons.
Aimez-vous être en contact avec les patients ?
Oui, tout à fait. C'est vrai que je pense que c'est la base. On est amené à voir le patient très régulièrement. On se voit plusieurs fois dans l'année. Donc c'est important, puis ça permet de suivre aussi l'évolution du patient, l'amélioration de ses conditions de vie.
Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce métier ?
Alors j'avais envie de faire un métier en rapport avec la santé, et puis de pouvoir aussi avoir un métier qui soit en constante évolution, qui soit et technique et manuel, et puis de pouvoir en fonction de mes envies, de pouvoir travailler seul ou être en équipe, être indépendant. Donc c'est un métier qui a multiples facettes, donc qui est intéressant en ce sens.
Quelle formation doit-on suivre pour faire audioprothésiste ?
Alors, on a un concours d'entrée, donc après le bac, sur les matières scientifiques. Donc c'est essentiellement des mathématiques, sciences physiques et puis sciences naturelles. Et puis donc c'est un diplôme d'État en 3 ans. Donc il y a beaucoup de cours théoriques et puis il y a beaucoup aussi de stages. Chaque année on doit faire à peu près 3 ou 4 mois de stage dans différents services. Ça peut être chez un audioprothésiste, ça peut être à l'hôpital au sein des services ORL. Ça peut être en maison de retraite aussi. Il y a différents stages que l'on pratique pendant toutes les études. Et puis à la fin, il y a un mémoire à soutenir après un examen final sur l'ensemble des connaissances acquises sur les 3 années.
Comment réalise-t-on un appareil auditif ?
Quand on reçoit les appareils auditifs, on les reçoit bruts, il faut les programmer. Hein. Donc avant, il y a la réalisation de l'appareillage auditif, donc ça c'est plus au niveau des fabricants. Il y a 4-5 ans avant de pouvoir sortir un nouveau produit sur le marché. Et puis au niveau de l'audioprothésiste, quand on a fait le choix de l'appareillage auditif, on le reçoit, il faut le régler à l'audition de la personne. Donc il y a différentes séances de réglage à prévoir. On fait des essais en général sur 3 semaines à 1 mois avant l'acquisition de l'appareil auditif, pendant lequel on va, pendant cette période d'essai, on va donc adapter l'appareil au mieux en fonction des besoins de la personne, en fonction de ce qu'elle ressent. Donc au préalable, il y a tout un tas de tests à pratiquer pour savoir quel est le niveau d'audition et de gêne.
Combien coûte un appareil auditif ?
Alors les prix sont assez variables, ça va de, on va dire, 700 euros pour un premier prix jusqu'à 1900 euros par oreille. Donc en fonction de la performance de l'appareil, on va avoir des prix qui vont être différents.
Y a-t-il beaucoup de personnes malentendantes ?
Alors oui, en France, on considère qu'il y a entre 5 à 6 millions de personnes souffrant de perte d'audition. Donc il y a à différents degrés. Il y a peut-être 60-65% de personnes qui ont des surdités légères à moyenne, 35% de surdités moyennes sévères, et puis après peut-être 8 à 10% de surdités profondes.
Faut-il prendre un rendez-vous dès qu'on a mal à l'oreille auprès d'un médecin ?
Alors oui, effectivement, c'est préférable. S'il y a une douleur dans l'oreille, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe. Donc ça peut ne pas être grand-chose, mais il faut mieux effectivement consulter un médecin pour s'assurer qu'il n'y ait pas de problème particulier et éviter une aggravation de la douleur.
À quel niveau faut-il écouter la musique ?
Alors ça, c'est une bonne question. La musique, il faut l'écouter, il faut prendre en compte 2 choses. Il y a l'intensité à laquelle on va écouter la musique, donc le volume, et puis il y a la durée qui va compter aussi. On peut écouter la musique à un niveau fort pendant plusieurs heures, ça sera aussi néfaste que d'écouter la musique très fort pendant quelques minutes. Donc je dirais qu'il faut pouvoir, quand on écoute par exemple un MP3 avec un casque, il faut pouvoir entendre quand même les personnes qui sont autour de nous parler. Hein, on considère que le bruit commence à être dangereux à partir de 85 décibels. Donc ça correspond à une voix criée. Hein, donc au-delà, on commence déjà à avoir des problèmes. On peut avoir des problèmes au niveau de l'audition si on écoute trop fort. Hein. Donc 85 décibels, il faudrait éviter d'être exposé à 85 décibels pendant plus de 8 heures. Mais si on écoute la musique à 100 décibels, il ne faudrait pas être exposé plus de 3 minutes à cette intensité-là. Donc par exemple, en discothèque, c'est souvent 105 décibels à peu près. Donc théoriquement, il ne faudrait pas être exposé très longtemps à cette intensité-là si on ne veut pas avoir de risque auditif par la suite.
Comment peut-on se protéger du bruit quand on va voir un concert ?
Alors, il faut essayer déjà dans un premier temps de s'éloigner des haut-parleurs. Hein, faut pas être trop près. Et puis, on peut effectivement aussi utiliser des bouchons anti-bruit, des protections. Donc, ça existe sur mesure ou standard. Et puis, il y a différentes protections auditives en fonction de la nature du bruit. Si on veut écouter la musique et qu'on est mélomane, qu'on aime bien avoir les différentes nuances du son, on a des protections anti-bruit qui permettent de filtrer tous les sons de la même façon. Hein. Quand on veut se protéger les oreilles parce qu'on travaille dans un environnement bruyant, les protections ne seront pas tout à fait les mêmes. On aura plus de protection dans les sons aigus que dans les sons graves.
Merci d'avoir répondu à nos questions.
Bonjour, merci.
On vous laisse avec une petite pause de pub conçue et montée par Edouard, Vandine et moi-même.
Martin, un garçon de 16 ans, aime écouter la musique comme tous les jeunes de son âge. Sa mère l'appelait pour manger.
Martin ! Martin, à table !
Sa mère entre dans sa chambre.
Martin ! Martin, ça fait plusieurs fois que je t'appelle. Enlève ton casque quand je te parle. Martin !
Le problème, c'est que Martin n'entendait pas sa mère, car ses oreilles étaient trop usées à force d'écouter la musique au-delà du seuil de sécurité. Ses tympans sont endommagés et son audition impossible à rattraper. Martin va le réaliser seulement maintenant en enlevant son casque.
Pour la paix de vos oreilles, écoutez la musique à niveau raisonnable.
Vous êtes toujours sur JTFM dans notre émission consacrée aux risques auditifs. Comment savoir si un bébé ou un jeune enfant entend mal? Quelles sont les aides mises en place pour les malentendants? Pour répondre à ces questions, nous laissons maintenant la parole à Flavie.
Merci Valentine. Nous accueillons Charlotte, 14 ans, malentendante depuis sa naissance. Bonjour Charlotte, comment as-tu découvert que tu étais malentendante?
Bonjour Flavie, merci de m'accueillir. J'ai découvert que j'étais malentendante car j'étais extrêmement malade. J'avais énormément d'otite. Je ne parlais pas du tout. J'ai parlé qu'à l'âge de 6 ans. Donc mes parents ont constaté qu'il y avait un problème. J'avais un manque d'équilibre, je n'arrivais pas trop à tenir debout. J'ai mis du temps à marcher. Et du coup, ma mère, elle a dit, il faut peut-être voir un médecin. Elle avait énormément de médecins. Un médecin m'a fait un test auditif. Donc c'est le médecin, c'est un oreille au CHU de Nantes. Et puis en 2007, c'était en 2007 que j'ai été voir le médecin. Et donc elle constate une perte d'audition, donc une surdité bilatérale du type Mondini. Donc c'est une malformation de l'oreille et c'est une maladie orpheline.
D'accord, donc quels dispositifs ont été mis en place pour t'aider?
Les dispositifs mis en place, un CEFIS de 2007 à 2011. Donc c'est une aide pour l'école, pour mieux comprendre les cours. Et elle a fait une demande auprès de la MDPH pour que mon handicap soit reconnu. Et elle a pu donc mettre en place un microphone pour que je puisse entendre mieux les professeurs lorsqu'il y a du bruit.
D'accord. Donc, et voici l'interview de la maman de Charlotte qui a également accepté de témoigner à notre micro.
Bonjour, donc je suis Madame Pénaud, la maman d'une enfant qui a eu des problèmes d'audition.
Quels sont les symptômes qui peuvent alerter les parents pour détecter au plus tôt des troubles de l'audition chez leur enfant?
Alors, généralement, ces enfants-là ne sont pas réceptifs au bruit sonore, c'est-à-dire à la voix de la maman, à un objet qui tombe, aux jouets qui font beaucoup de bruit. On voit que l'enfant n'a pas de réaction. Et le regard, quand on l'appelle, ne vient pas. Il a une réaction que si on est face à l'enfant et qu'on lui parle. C'est comme ça qu'on a pu s'apercevoir des problèmes chez notre enfant.
Quels ont été les spécialistes qui vous ont aidé?
Alors, tout d'abord, des pédiatres, pour essayer de trouver quelle était la problématique, si elle était vraiment auditive ou visuelle. Et puis après, un ORL, un spécialiste de tout le système ORL, avec des tests d'audition. Et quand ils sont petits, les tests d'audition se font avec des jouets. On met l'enfant dans une pièce avec une vitre, et l'enfant ne nous voit pas, nous on le voit, et il y a un petit train qui tourne autour de lui. Donc parfois le petit train est derrière, donc il ne le voit pas. Et s'il l'entend, sa tête va tourner vers le petit train. Et s'il n'entend pas, il regarde que le petit train qui passe devant. Donc ma fille a eu ce test jusqu'à l'âge de... jusqu'à temps qu'elle puisse lever la main ou exprimer qu'elle entendait un bruit. Donc au début, c'est que les petits trains qui passent avec un casque sur les oreilles qu'on met à l'enfant pour voir où est son problème. Et il monte le son du petit train et à un moment, l'enfant... tourne, donc c'est là qu'on arrive à doser à quelle est sa perte d'audition.
D'accord. Et comment s'est passée la rééducation?
Alors la rééducation pour un enfant qui a des problèmes de langage, c'est souvent l'orthophoniste. Si c'est au-delà, si c'est très important, on peut avoir, ce qui a été le cas pour nous, l'école des sourds-muets qui se déplace dans sa propre école pour lui apprendre à oublier de lire sur les lèvres déjà, parce qu'on a beaucoup parlé en cachant notre bouche pendant des mois et des mois. Et puis, elle a de l'orthophonie dans ces cas-là à peu près 2 fois par jour.
D'accord. Et quel conseil donnerez-vous aux jeunes pour protéger leur audition?
Alors, c'est compliqué parce que moi, j'ai connu la perte d'audition petit. Ça va être de protéger ses oreilles de toute façon, que ce soit du bruit trop fort, de la musique trop forte, des objets qu'on met dans les oreilles comme les petits... Enfin, qui se font de moins en moins. Les petits écouteurs qu'on rentre dans l'oreille, il vaut mieux avoir le gros casque. protection du froid, protection de l'eau, protection de la neige. Enfin, moi, je suis très vigilante là-dessus pour faire attention aux oreilles. Également, en piscine, laver ses oreilles quand on sort de la piscine, ce que font pas les enfants. Ils se lavent la tête, mais ils ne se lavent pas les oreilles avec de l'eau. Parce que ça abîme le tympan, ça, la piscine.
D'accord. Avez-vous quelque chose à ajouter ?
Non, simplement qu'avec un problème d'audition, on peut vivre tout à fait normalement en étant appareillé, en apprenant à parler avec les gens qui sont spécialistes, en s'entourant de gens bienveillants. Voilà.
D'accord, bah merci d'avoir répondu à nos questions et au revoir.
Merci, au revoir.
Est-ce que d'être malentendante, ça change quelque chose dans ta vie ?
Non, pas du tout. Non, vraiment pas. Surtout, enfin, pour moi, je suis une personne comme tout le monde. J'ai juste c'est comme les lunettes, en fait. Il y a des personnes qui ont des lunettes, bah moi j'ai juste des appareils et puis bah non, ça change rien. Enfin, moi je le vis très très bien.
D'accord, bah merci d'avoir répondu à mes questions et bonne continuation.
Merci Flavie de m'avoir posé des questions et à très vite.
Bah, on passe maintenant la parole à Johan.
Merci. Et maintenant, nous vous offrons une petite pause musicale avec un morceau original créé par François Berthet à la guitare, Titon Chabot à la batterie, pour l'émission. Nous tenons à remercier Cyril Alain qui a enregistré ce morceau. Et on se retrouve juste après ce morceau.
Dans cette troisième partie d'émission, nous vous expliquons comment faire attention à vos oreilles grâce à l'association Peace and Love. Nous sommes allés voir le spectacle de Peace and Love. C'est une association pour la prévention contre l'audition qui sensibilise les adolescents à l'écoute des musiques à fort volume. L'association a créé ce spectacle pédagogique en 1998. Les musiciens nous ont présenté l'histoire des musiques amplifiées et nous ont parlé de plusieurs types de musique à travers une cinquantaine d'années.
Ils nous ont parlé aussi des décibels. Ils nous ont dit qu'il ne fallait pas écouter de la musique trop fort et trop longtemps. Ils ont joué plusieurs morceaux de musique et nous ont appris à se protéger du son avec des oreilles, avec des bouchons. En 24 ans, on constate deux fois plus de pertes auditives chez les adolescents. On a bien aimé ce spectacle car on a appris beaucoup de choses sur l'audition et les musiciens étaient sympas.
On poursuit avec un micro-trottoir qui a été fait par Geoffrey, Benjamin, Valentine, Flavie, Charlotte et Elma pour savoir ce que les jeunes collégiens et lycéens attendaient du spectacle et ce qu'ils en ont pensé.
À quoi est-ce que tu t'attends comme spectacle?
Je sais pas du tout, je pense qu'ils vont surtout nous parler de musique, de comment on peut être, se protéger par rapport au son et tout ça, mais je sais pas du tout ce que ça va être. Je m'attends à tout en fait.
Je sais pas très bien, justement, j'aime bien les surprises. Je crois que c'est un format concert, mais voilà, on va voir.
Je sais pas trop à quoi je m'attends. Je sais que c'est pour défendre la cause des gens qui sont malentendants, qui ont des problèmes aux oreilles, donc voilà. Mais je sais pas trop non à quoi m'attendre. Après, voilà.
Ben moi j'ai déjà vu, ils avaient fait écouter plusieurs styles de musique différents, genre du rock et tout ça.
Qu'est-ce que vous évoque le nom Peace and Love?
Beaucoup de choses, mais surtout de la liberté et pouvoir être qui on veut.
Bah le son, les oreilles.
Bah pareil.
Qu'avez-vous appris sur le risque auditif?
Qu'il faut se reposer après avoir écouté de la musique trop fort et qu'il faut mettre des bouchons d'oreille et on peut quand même entendre avec des bouchons d'oreille.
Qu'il fallait faire attention aux oreilles, qu'est-ce que c'était sensible.
Il fallait mettre des bouchons d'oreille.
Vu que je fais de la musique, je suis beaucoup confronté à ça et du coup j'ai pas appris grand-chose. Mais c'était intéressant quand même.
Est-ce que vous avez aimé le spectacle?
Je trouvais ça plutôt sympa. Après, j'aurais bien vu d'autres morceaux en fait, mais c'était bien.
Bah oui, on a bien aimé le spectacle.
Oui, on a bien aimé.
Mais il y a quelques moments un peu ennuyants, où quand il parlait des oreilles, etc.
Si, moi j'ai bien aimé.
Oui, il était rythmé et on a appris plein de choses sur les risques auditifs.
J'ai adoré.
Pourquoi?
Parce que c'était diversifié, c'était très intéressant au niveau culture.
Ok. Quel est le morceau que vous avez préféré?
J'ai bien aimé Song 2 de Blair, parce que Song 2, et puis parce que Damon Albarn, c'est trop bien, voilà.
D'accord.
C'est tout.
Les Ramones, Let Dance.
J'ai beaucoup aimé Dommage de Big Flo et Oli, parce qu'ils l'ont bien revisité et je trouvais ça très bien.
Ah mais j'ai adoré le spectacle, c'était vraiment super, j'ai beaucoup aimé les musiques, les revisites, leur façon de présenter le spectacle et les risques, vraiment c'était génial. Je dirais que c'est Big Flo et Oli, Dommage, il était vraiment génial et j'adore ce morceau de base, donc franchement ça m'a fait plaisir de l'entendre en concert.
Et maintenant voici l'interview des musiciens du spectacle Peace and Love qui nous ont présenté leur façon de se protéger les oreilles.
Alors moi donc, je m'appelle Erwan et dans le spectacle Peace and Love je fais du clavier basse.
Bonjour, moi je m'appelle Willy, je suis guitariste dans le projet Peace and Love.
Bonjour, depuis combien de temps vous jouez de la musique?
Alors moi j'ai commencé le piano à 8 ans, j'ai 41 ans, donc ça fait, Will, 33 ans.
Longtemps.
Ah,
longtemps.
Ça fait longtemps.
Moi j'ai commencé tard la musique, j'ai commencé à 17 ans, j'en ai pas mal, donc je dois être à 29 ans de pratique.
Comment vous vous êtes rencontrés entre musiciens? Alors on s'est rencontrés autour de Titi, je pense, qui a initié le projet il y a une dizaine d'années. Et donc cette personne-là nous connaissait tous individuellement. Et donc on s'est rencontrés par exemple avec Will, là on s'est rencontrés autour de ce spectacle précisément.
Ouais, c'est-à-dire qu'on n'a pas de groupe ensemble en dehors du spectacle. Et puis surtout l'idée de ce projet-là aussi était venue de la part des salles de musique amplifiée, entre autres les SMAC, les salles de musique actuelles en fait, comme par exemple le Shabada, le Fusion à La Roche ou des trucs comme ça. Et ces villes-là, quand en 98 il y a eu le premier décret sur la loi autour du son et du bruit, et de la nuisance sonore, ces salles-là se sont vite inquiétées de la prévention et donc ont beaucoup participé à la création de ce spectacle et de ce dispositif Peace and Love.
Depuis combien de temps jouez-vous pour le spectacle de Peace and Love?
Moi ça va faire 8 ans, 10 ans, 8-10 ans.
Et moi 5-6 ans là.
Et c'est vous qui avez créé ce spectacle? Enfin, comment vous avez eu l'envie de le créer? Comment ça s'est passé? Au départ c'était... Donc le spectacle existait déjà dans les années 2000. Nous, on l'a remodifié en 2008, quand il a été relancé. Il y a de toute façon une charte qui est commune à ce spectacle, c'est-à-dire qu'on a des informations à dire précisément, des choses immuables, comme comment on s'est fait une oreille, c'est quoi le son. Voilà, il y a toute une partie scientifique qui doit faire partie du spectacle. Et après, nous, on l'a adapté, on l'a fait en fonction de ce
qu'on pensait qui était bien pour parler à des gens plus jeunes que nous, que ça soit ludique et que ça soit vivant. Donc on a travaillé avec des metteurs en scène, on a travaillé avec un sociologue, on a travaillé avec des médecins, pour que ce message-là autour du son, il passe bien.
Comment avez-vous réussi à vous faire connaître ?
C'est un petit peu particulier parce que on n'est pas comme un groupe de musique qui essaye de se faire connaître à la radio ou à la télé ou je ne sais pas quoi. Là, c'est vraiment un spectacle qui est destiné avant tout à des collégiens ou des lycéens. Donc, on se fait connaître par des réseaux plutôt scolaires. En fait, on a un public un peu particulier. Vous êtes, quand vous venez nous voir avec vos professeurs dans le cadre scolaire. Donc, je ne suis pas sûr qu'on soit vraiment ce qu'on peut dire, ce qu'on peut appeler connu, quoi.
Et vous jouez dans d'autres groupes en parallèle ou pas ?
Oui, un peu tous. Alors, il y en a certains qui jouent ensemble dans d'autres groupes d'ailleurs, mais on a tous des formations. Alors, pas forcément dans les mêmes styles musicaux. Ça va du dub musette pour certains, à la musique brésilienne pour d'autres, au rock ou à la funk pour d'autres encore. Voilà. Même à l'électro, puisqu'on a un ingénieur du son qui est organisateur de grosses soirées techno.
Avec quelle fréquence répétez-vous ensemble ?
Il y a beaucoup de spectacles dans l'année, il y a environ 70 concerts Peace and Love à peu près. Et nous, on s'entraîne avant les saisons. Par exemple, il y a les spectacles de la session d'automne, on appelle ça. Donc là, on est en plein dedans. Et bien, en septembre, on se retrouve, on passe 3 jours ensemble dans une salle où on répète le spectacle et on modifie des petites choses. On travaille des nouveaux morceaux parce que le spectacle, il reste globalement le même au fil des années. Par contre, les morceaux, on essaie de changer pour s'adapter, rester un peu dans l'actualité.
Et gagnez-vous votre vie en jouant de la musique ?
Oui, on a tous un statut d'artiste, ça s'appelle un statut d'intermittent du spectacle. Et on a tous ce statut-là. C'est un régime, ouais, un régime de la caisse de chômage, en fait, de Pôle emploi. Oui, on a tous ce statut-là, soit pour certains qu'avec Peace and Love, et pour d'autres, partagé entre Peace and Love et d'autres projets musicaux.
Avez-vous des problèmes auditifs ? Si oui, que faites-vous pour ne pas en souffrir ?
Alors, je pense qu'on est tous un petit peu différents dans le groupe. Il y en a certains, il y a Jack, par exemple, que tu as vu tout à l'heure, qui joue du clavier. Lui, il a des acouphènes, donc je pense qu'il se protège globalement pour éviter que ça s'aggrave, surtout, en fait, hein, parce que, comme on l'a expliqué dans le spectacle, certains acouphènes peuvent devenir définitifs, donc de toute façon, tu ne peux pas vraiment te soigner. Même si on sait aujourd'hui que sur la question des acouphènes, il y a éventuellement des façons d'apprendre à vivre avec, comme avec la sophrologie ou avec l'hypnose, mais on ne peut pas vraiment le soigner. Et je pense qu'on a tous un petit peu des baisses auditives, globalement, sur certaines fréquences, un peu plus, suivant qu'on soit batteur, guitariste ou bassiste. Après, voilà, ça veut dire se protéger. Moi, je suis technicien, entre autres, sur un festival qui s'appelle le Hellfest. Et je travaille dessus. Là, je me protège beaucoup avec des bouchons moulés, comme on vous a montré tout à l'heure, voire un casque de chantier en plus.
Et en parlant du Hellfest, par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure avec le son qui était trop fort, vous pensez pas que là, au niveau du Hellfest, c'est trop fort ?
Ben, c'est ce qu'on a essayé d'expliquer tout au long du spectacle. Pour moi, il n'y a pas vraiment de musique trop forte, à part si on va dans des trucs inaudibles, évidemment, où on va frôler la douleur. Mais par exemple, sur un festival comme le Hellfest, pour moi, la musique, elle n'est pas trop forte. Le problème, après, pour chaque individu, ça va être d'adapter son temps d'exposition au volume d'exposition. C'est-à-dire que si tu as le sentiment que c'est trop fort, bah déjà, tu peux t'éloigner et puis profiter des concerts d'un peu plus loin, ce qui est relativement faisable sur un festival comme le Hellfest, parce que tu as aussi des grands écrans, tu peux voir le concert d'un petit peu plus loin et quand même profiter d'un bon son. Ou alors, tu vas devant, mais tu vas moins longtemps. Ou alors, tu te protèges avec des bouchons. Après, c'est à chacun d'évaluer un petit peu en fonction de ses ressentis, en fonction de ce qu'il connaît sur son physique et sa tolérance au son, quoi. Mais je pense pas que ce soit vraiment trop fort. Bon, en plus, de toute façon, il va y avoir une nouvelle législation qui va baisser le niveau sonore. Cette législation ne s'appliquait pas au festival jusqu'à maintenant. Donc on va voir ce que ça donne sur les festivals. La question des festivals, par exemple, la question, elle va se poser aussi de savoir si on joue moins fort, mais aussi si on joue tout le temps. C'est-à-dire que, par exemple, sur les changements de plateau, tu vois ce que c'est ? C'est entre deux concerts, on va changer le plateau, en fait. Souvent, il y a plein de festivals où il y a des scènes qui s'alternent, donc il n'y a jamais de silence pendant toute la journée. comme Hellfest par exemple, les deux grosses, les deux main stage, il n'y a jamais de silence en fait. Peut-être que les festivals vont réfléchir un petit peu autrement, en faisant en sorte qu'il y ait moins de son par exemple, peut-être de l'image à la place, peut-être autre chose, pour baisser l'ensemble de l'exposition sonore sur l'ensemble du festival en fait, sur la durée. Quoi. Je pense qu'il faut vraiment avoir ça en tête tout le temps. Pas parler de son trop fort, ça n'a pas de sens si on ne l'associe pas, à mon avis, à un temps d'exposition en fait.
Et que conseilleriez-vous aux jeunes musiciens pour préserver mieux leur audition ?
Bah quand tu es musicien, moi je pense que vraiment l'idéal c'est de pouvoir se protéger quoi. Parce que en fait quand tu es musicien, tu peux répéter avec un groupe qui joue pas trop fort, mais ça va dépendre après où tu joues. Il y a des endroits où le son il est pas bon, tu vois. Nous on a vachement répété dans des garages ou dans des on a joué dans des cafés-concerts pas du tout adaptés. On répète, des fois t'es bien, puis d'un coup tu vas te retrouver en situation de concert où là le son il va t'arracher la gueule, clairement, parce que t'es dans un endroit qui est pas adapté. Donc c'est plutôt à nous de nous adapter à ce qu'on fait, aux endroits où on joue. Et puis l'idéal c'est de porter des bouchons quoi. C'est
clair. Ouais, puis globalement après sur les locaux de répétition en fait faut apprendre aussi à bien positionner ses amplis pendant que tu répètes, ce qui te permettra peut-être de les mettre moins fort. Plutôt que de les mettre au sol, par exemple, il y a des gens qui les mettent systématiquement au sol, mais qui se mettent devant leur ampli. De fait, tout le son, il part au niveau des gens, mais en fait, ils ne s'entendent pas. Donc, ils sont obligés de mettre plus fort. Alors que si simplement, ils surélevaient, comme tu vois là, l'ampli qui est là-bas, un petit peu leur ampli, ou qu'ils le penchent, eh ben, ça permet de l'avoir en direct. Et du coup, bah, tu peux aussi gérer ton son et baisser ton volume sonore global pendant ta répétition. Quoi. Et après, prendre des temps de pause, comme on a dit pendant le spectacle aussi, un quart d'heure toutes les heures, ça vaut aussi pour les gens qui répètent.
Souhaitez-vous rajouter quelque chose ?
Non, mais j'espère que vous écouterez plein de musique toute votre vie et que vous avez compris un peu ce qu'on essaye de défendre dans ce spectacle-là. C'est vraiment, on est là pour faire la promotion de la musique et encore plus la promotion du plaisir de pouvoir en écouter toute sa vie. Quoi.
Merci
à vous, gars.
Merci à Marius, Axel, Kylian et François qui nous ont réalisé l'interview et le montage. Et pour finir sur Peace and Love, nous allons vous passer un extrait du concert. C'est une reprise du morceau Make It But Down de Skrillex. Allez, on écoute.
Donne maintenant les bons réflexes à adopter quand on va à un concert pour éviter les risques auditifs. C'est l'association Peace and Love qui les a transmis pendant le spectacle.
Alors il faut s'éloigner des enceintes.
Ne pas écouter trop fort la musique dans son casque, 85 décibels maximum.
Mais si malgré tout on doit écouter une musique trop forte, environ 100 décibels, alors il faut, Geoffrey ?
se protéger les oreilles avec des bouchons d'oreilles faits sur mesure ou standard.
Si on commence à avoir des problèmes auditifs, c'est bien d'aller voir un médecin sous 24 heures. Je passe la parole à Valentine qui va nous parler du technicien du son.
Merci les gars. Alors le technicien du son est un professionnel important pour le réglage du son. Nous avons eu l'occasion de rencontrer celui du concert de Peace and Love qui nous a présenté en quoi consiste son métier. Il règle le son sur chaque instrument en fonction du morceau et sur les enceintes de la salle. Il teste et réalise les branchements et câblages nécessaires. Régie, plateau, enceinte, microphone. Et enfin, il assure le transport du matériel de sonorisation sur le lieu de la représentation ou du montage. Et maintenant, écoutons cette interview réalisée par Johan, Victor et Romain pour en savoir plus.
Alors bonjour, donc moi je suis Nico, je fais partie du spectacle Peace and Love. Je suis donc technicien son dans le cadre de spectacle et puis à côté je suis aussi musicien.
À quoi consiste votre métier ?
Alors le métier de technicien son en fait, il consiste à régler le son du groupe, hein, pour le groupe et puis aussi pour le public. Alors pour le groupe, le but du jeu c'est que tout le monde s'entende bien sur scène, hein, pour que tout le monde puisse jouer en même temps. Et pour le public, le but c'est qu'il y ait un bon confort de son, donc on entende bien aussi tous les instruments, que ce soit pas trop fort, que le son soit bien réglé, pas trop agressif, voilà.
Avez-vous toujours voulu faire ce métier ?
Alors moi je suis arrivé sur ce métier un peu sur le tas, on va dire, c'est-à-dire que j'ai pas fait de formation, j'ai commencé plutôt par faire de la musique, et puis petit à petit je me suis intéressé aussi à la diffusion du son, les enceintes, les platines, parce que je fais plutôt de la musique électronique, donc la production de la musique, etc., via les ordinateurs, les consoles, donc petit à petit je me suis orienté aussi vers la technique du son, et du coup aujourd'hui je fais autant de la musique que de la technique du son, ce que je trouve très intéressant d'avoir un petit peu les deux côté, aussi bien qu'on est musicien puisqu'on se rend compte un peu de toutes les contraintes que c'est de sonoriser un groupe, et puis quand on fait technicien, bah c'est intéressant aussi de savoir ce que font les musiciens, donc c'est bien d'avoir les deux.
Est-ce que dans votre famille il y a des gens qui faisaient ce métier ?
Non, moi je suis arrivé tout seul. Mon père écoutait beaucoup de musique, donc c'est ça qui m'a tourné un peu vers la guitare, notamment au début, mais sinon après non, je me suis intéressé tout seul. Ouais.
Quelles études avez-vous fait pour en arriver là ?
Et donc j'ai pas fait d'études spécialement pour ce métier. En tant que musicien, j'ai fait des cours de guitare, un peu de conservatoire et puis une école. Mais pour être technicien son, non, j'ai vraiment appris sur le tas. Ce qui aujourd'hui est un peu plus difficile, on va dire, parce qu'avec l'arrivée de toutes les consoles numériques, etc., c'est quand même pas évident d'apprendre tout sur le tas aujourd'hui.
Qu'est-ce que vous devez faire pour que ça se passe bien dans le spectacle ?
Eh bien en fait j'ai deux rôles un peu dans le spectacle, c'est-à-dire que j'ai le rôle vraiment du technicien son, où donc je dois régler le son pour qu'il soit correct, que tout le monde s'entende, et puis je fais aussi ce qu'on appelle la conduite du spectacle, c'est-à-dire que comme j'envoie les vidéos, etc., j'envoie un certain nombre de tops au spectacle qui leur permet eux d'enchaîner les différents moments du spectacle, donc je suis aussi avec eux dans la conduite et le déroulement.
Pendant certains concerts où la musique peut être d'un niveau sonore plus ou moins élevé, est-ce que ça vous arrive de porter des casques ?
Alors moi j'ai des bouchons en silicone moulé là, fait spécialement à la forme de l'oreille, et moi je les mets tout le temps quand je vais à des concerts ou à des soirées en fait. Je les mets systématiquement quand je suis en tant que public. Quand je travaille par contre je les mets pas, puisque il faut que j'entende forcément la même chose que le public. Si moi je me mets à entendre moins fort, du coup ça va être faussé, je vais être tenté de mettre plus fort. Donc quand je bosse je les mets pas, mais par contre quand j'y vais en tant que spectateur je les mets systématiquement. Ouais.
Est-ce que vous avez des problèmes auditifs ?
Ouais, j'ai une oreille qui entend, l'oreille droite qui entend quand même beaucoup moins bien. C'est pour ça que depuis quelques années, je fais gaffe, je me protège avec les bouchons, parce que j'ai pas envie de devenir sourd, puisque c'est mon métier.
Quel conseil donneriez-vous à un jeune qui veut devenir ingénieur du son ?
Pour devenir ingénieur du son, le meilleur moyen, c'est... alors il y a les études, évidemment, hein, on peut faire des études dédiées, mais ce que je trouve surtout important, c'est d'y toucher par soi-même. Alors soit si on est musicien un peu, déjà on commence à prendre conscience un petit peu de tout ce que c'est que ces histoires de micro, etc. Et puis même si on n'est pas musicien, de commencer à essayer de toucher à une console avec des copains qui, eux, font de la musique, de faire des concerts en bénévole, voilà, de ne pas hésiter à mettre les mains dedans. Avant ou après ou pendant qu'on fait des études, c'est vraiment important d'y toucher en direct, quoi.
Merci d'avoir répondu à nos questions, puis voilà.
Ça marche. Merci bien. À vous.
Merci. Nous allons terminer cette émission avec un quiz que nous avons préparé rien que pour vous. Quatre questions vont être posées à Marius, Charlotte et François afin de tester leur connaissance sur les risques auditifs. Bonjour à tous les trois.
Bonjour.
Bonjour.
Trois choix de réponses sont proposés à chaque fois. Le premier qui donnera la bonne réponse aura un point.
Attention, vous êtes prêts, c'est parti.
Première question, quel est le pourcentage de jeunes entre 15 et 24 ans qui écoutent de la musique hors radio tous les jours?
50%, 70% ou 90%?
Marius?
70%.
Bonne réponse. Deuxième question, en 24 ans, les adolescents ont-ils?
Deux fois plus de pertes auditives, trois fois plus de pertes auditives ou quatre fois plus de pertes auditives?
François?
Deux fois plus.
Bonne réponse. Troisième question, à partir de combien de temps décibels le son commence à être dangereux pour vos oreilles?
70 décibels, 90 décibels ou 85 décibels?
Charlotte?
85 décibels.
Bonne réponse.
Un partout.
Combien de temps peut-on écouter de la musique en plein volume par jour?
30 minutes, 15 minutes ou 45 minutes?
Marius?
15 minutes.
Bonne réponse. Le gagnant est Marius. 2 à 1-1.
L'émission s'achève. Nous remercions vivement l'agence de recherche sur la santé qui a permis que cette émission soit réalisée. Nous remercions également les musiciens et techniciens du son de Peace and Love, ainsi qu'Hélène Fourage, la coordinatrice de l'association Musazik.
Tous nos remerciements également à Éric Jutier et toutes les personnes qui ont répondu aux interviews, aux professeurs et documentalistes du Collège Rosa Parks, à la radio JetFM qui nous accueille et bien sûr à Julie Ouzou qui nous a guidés dans toutes les étapes de la réalisation de l'émission.
Et enfin, un grand merci à tous les auditeurs pour leur écoute attentive. Vous pouvez réécouter cette émission en podcast sur www.jetfm.assos.fr.
Bonne journée sur les ondes de JetFM et à bientôt.
Retrouvez tous les projets du Sonolab sur le www.sonolab.fr ou sur JetFM 91.2.